Bonsoir, bon midi à tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde pour une autre session de questions-réponses. Tout d'abord, pendant que vous vous installez, je vais répondre à la première question qu'on a envoyée par mail et puis nous verrons bien. C'est une question écrite envoyée par Marlou. Dans la transition du texte de la voix du Bodhisattva en néerlandais par l'édition Maitreya, dans la. La strophe 127, dans la dernière ligne, il dit plus ou moins la transition suivante. Donc, oui, dois-je chaque fois pratiquer les trois types de patience? Ma question est, est-ce que ces patiences qui sont mentionnées dans la strophe 127 en tibétain, sont-ils détaillées dans le tibétain? Et j'aimerais aussi le comprendre de cette manière. Que les trois types de patience sont avoir la patience de tout ce qui peut, les événements qui peuvent arriver dans le passé, le présent et le futur, et que ils sont de ensuite que les trois groupes pour les 24 sortes de patience qui ont été détaillées dans le texte concernant les bonnes choses et les mauvaises choses envers les autres, dans le passé, le présent et le futur. Dans le texte, on parle donc de trois types de patience. En fait, elles ne sont pas détaillées ni en anglais ni en tibétain. Donc, c'est sans doute. C'est sans doute le traducteur néerlandais qui a rajouté ça. Cette stance est la conclusion. Qui dit que pratiquer la patience est sans doute la meilleure chose que l'on pourrait faire pour honorer ou plaire au Bouddha et au Bodhisattva et tous les êtres illuminés. Et ce serait le mieux pour nous aider nous-mêmes. Et ce serait le mieux pour aider les autres de la même manière. C'est à propos de cela. Bien sûr, les trois types de patience, quand on en parle, c'est l'opposé, sans doute, c'est en rapport avec les trois. Les trois types de patience. Comme par exemple, différents types de patience, ne pas être fâché ou plein de haine, ne pas répondre aux provocations, patience. Par exemple, quand on est dans des situations difficiles, ne pas devenir impatient et lui supporter, et ne pas rapidement, qu'on puisse pas y résister et qu'on soit complètement submergé par les difficultés sans pouvoir être patient. Ça, c'est les différents deuxième type de patience. Et le troisième, c'est de la tolérance. Dans le sens qu'on peut avoir une grande ouverture, un grand cœur, et même s'il y a différents types de personnes ou différentes philosophies ou différentes manières de d'observer les choses, on peut être plus tolérant et avoir un esprit plus large. C'est sans doute de ça que ça parle, mais ce n'est pas mentionné spécifiquement dans le texte. Mais c'est sans doute ce qui est de ça qu'on parle, même si ce n'est pas mentionné clairement dans le texte. Donc je pense que j'ai répondu à la question. Peut-être que je vais prendre une question en direct maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? John, content de vous voir, vous aussi. C'est une question sur la pratique des divinités. Et à propos de la phase de complétion. Et par rapport à la phase de création, est-ce qu'il y aura plus de temps, qu'il faudrait consacrer plus de temps pour à la phase de complétion? Et donc, ce n'est pas la voie la rapide, c'est en fait la voie la plus longue. En fait, dans le texte d'une sadhana, on n'aura pas le détail sur la phase de complétion. Ce ne sera pas indiqué dans la sadhana parce que c'est trop long. C'est sans doute la base que vous devez avoir avant de faire la pratique, tous les enseignements qu'on a reçus, comme par exemple un mudra, et toutes les instructions de méditation qu'on a reçues, et sur la vue, sur la vacuité, toutes les études qu'on a faites. Et tout ce qu'on a compris sur la nature ultime des choses, des phénomènes, la nature de nous-mêmes, tout cela fait partie de la phase de complétion, la base de cette phase de complétion. Mais tout ça, on ne sait pas mettre dans la sadhana, parce que la sadhana, le texte en général, est assez court. Même dans les très longues sadhanas, on ne donne pas le détail de la fin. Parfois, on donne quelques instructions. Par exemple, il y aura le mantra de la vacuité, de l'interdépendance, pardon. Donc, tout ce que vous avez étudié, les instructions que vous avez reçues sur Madhyamika, Om Mahamudra, Dzogchen, tout ce que vous avez pu recevoir, tout cela est la base de la phase de complétion. Et c'est cela, la compréhension que vous en avez. Ça sert de base. Et donc, quand on dit que tout devient vacuité et que de la vacuité surgit toutes ces choses, dans la sadhana, il y aura juste ça qui est mentionné. Mais qu'est-ce que cela veut dire en effet? Dans l'expérience de la pratique, là, vous devez vous rappeler tout ce que vous avez étudié jusqu'ici. C'est essentiel. Sans cela, la méditation, même la phase de création ne devient pas vraiment la phase de création si on n'a pas cette base de compréhension. Et c'est seulement de l'imagination alors à ce moment-là. Merci Rinpoche. Suivante. Ou suivant. Une question de Rinchen. Bonjour Rinpoche, merci pour cet enseignement sur Zoom. Comment allez-vous? Très bien, merci. En retraite depuis 16 semaines. Oui, tout se passe très bien, merci. J'ai une question sur le chapitre sur la diligence. Et alors, on m'a posé la question de savoir si j'avais enseigné la suite, le chapitre suivant sur la diligence. Et bien sûr, je vais continuer l'enseignement du Bodhisattva. Et donc, le prochain chapitre sera celui de la diligence. Mais vous pouvez déjà poser une question là-dessus si vous voulez. Ce n'est pas une question sur le texte lui-même, mais sur le commentaire de Kunzang Palden. Donc c'est à propos du vers 42 de chapitre de la diligence. À propos du karma, il parle de deux types d'actions. Des actions qui propulsent, qui feraient peut-être sans doute parler de l'intention. Donc les traducteurs emploient sans doute différents termes pour traduire le texte le tibétain. Le premier type d'action, par exemple, donc le texte, la traduction dit des actions qui propulsent ou qui projettent. En fait, il y a deux choses à savoir, ou deux types. Bon, je ne vais pas vous donner le tibétain. Le premier type d'action, par exemple, quelque chose qu'on a fait toute notre vie. Par exemple, on n'a pas été une très bonne personne pendant toute nos vies. On a fait des choses négatives. On a vécu de manière un peu pas très bien, pas très bénéfique. Et donc, on a accumulé beaucoup de karma qu'on pourrait appeler négatif. Mais à la fin de votre vie, peut-être à ce moment-là, vous avez eu une très bonne influence, vous avez rencontré un bon maître et vous avez complètement changé. Vous êtes transformé. Vous avez essayé de vous changer. Et à ce moment de la mort, vous mourrez d'une manière très très bonne et très positive. Et donc, la manière dont vous terminez votre vie, cette manière complète de notre vie, fin de vie, peut-être grâce à cela, la prochaine vie, nous renaîtrons dans une condition, de très bonne condition, mais on est dans une très bonne situation, mais on aura tout le temps des problèmes dans cette situation. À cause de toutes les choses négatives qu'on a accumulées pendant toute la vie précédente. Mais le background, la base générale sera plutôt bonne, la situation générale sera plutôt bonne. C'est ce qui conclut ou termine l'action, c'est ça qui est très important. Ce qu'on fait à la fin de la vie, d'une manière plus puissante à la fin, de manière plus récente, c'est celui-là qui aura la plus grande, aura l'effet le plus fort. Par exemple, si tout ce qu'on a fait pendant notre vie n'est pas très bon, mais qu'à la fin on a fait quelque chose de très bon de manière très forte, alors la vie suivante, on sera influencé de manière plus prépondérante par cette dernière chose possible qu'on vient de faire, qu'on a fait. Et les autres seront là, mais auront moins d'influence. Et donc, dans la vie suivante, grâce à cette dernière intention qu'on a eue à la fin de notre vie, et donc les choses négatives que l'on a fait précédemment vont être purifiées et se dissiper. Être un jour complètement purifié. Et donc c'est de cela que ce passage parle dans le commentaire. Comme je vous disais, je suis en train de faire une retraite un peu longue et parfois en début de retraite, on est plein de joie et tout va bien. Et puis, bien sûr, il y a d'autres moments pendant la retraite où on est un peu, on se sent un peu moins satisfait et moins bien et des choses changent. Est-ce que vous pensez que ce qui provoque cette situation provient d'un karma récent ou de plus lointain? Oui, ça c'est peut-être plus une question d'humeur. Peut-être qu'il n'y a pas trop d'influence du karma, c'est plus votre humeur du jour qui influence les choses. Parce qu'il y a tellement de causes et de conditions qui peuvent intervenir. La théorie du karma n'est vraiment pas si facile. Peut-être un Bouddha sait exactement dire pourquoi quelque chose arrive, mais on ne peut pas facilement identifier une cause pour tout ce qui nous arrive en disant c'est à cause de cette cause spécifique-là que je suis comme ça aujourd'hui ou quelque chose comme ça. Bien sûr, il y a des jours où on se sent bien, d'autres jours où on se sent moins bien. Mais c'est ça qu'on doit comprendre, c'est ça la pratique. Ça, ce n'est pas la. Le karma, c'est vraiment la pratique qui fait la différence. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est normal, on ne sait pas être tout le temps avoir des expériences qui sont plaisantes. Et parce qu'en plus, si on les a, si on a tout le temps des expériences, que des expériences plaisantes, peut-être que pour nous, c'est pas très bon non plus. Et c'est aussi en faisant face à des expériences plus difficiles qu'on peut voir comment on sait leur faire face. Et c'est là que ça c'est la pratique. C'est ça la vraie pratique. Et selon les choses chouettes qui arrivent ou plaisantes qui arrivent, on n'a pas beaucoup de choses à pratiquer. Tandis que si on a une période plus difficile, là on peut vraiment mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Et si on n'est pas trop secoué par les événements un peu plus difficiles, ça, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment la pratique. C'est ça la pratique, en fait. Et donc, c'est important, pas tout le temps avoir des choses plaisantes et d'apprendre à faire face aux périodes plus difficiles. C'est une bonne manière d'apprendre. Personne suivante, peut-être? Quelqu'un d'autre? Une nouvelle question. Alors, je vais. Ok. Question suivante. J'ai une question qui ne s'apporte pas au Bodhisattva. Mais j'y ai pensé après la question de la Marine Chen. Si nous maintenant on cultive les quatre pensées qui tournent l'esprit vers le Dharma pendant la journée. Et si on prend des vœux pour les journées, on essaie de les respecter. Ça peut créer un état d'esprit d'espoir et de peur. Comment pouvez-nous ne plus avoir ces espoirs et peurs et garder la joie de faire la pratique sans avoir ces craintes et ces espoirs? Rinpoche, donc je n'aime pas tellement en général cette traduction d'espoir et de peur. Parce que si on n'a pas d'espoir, alors on devient désespéré. Et ce n'était pas une bonne chose d'avoir aucun espoir. Parce qu'en fait, l'espoir, ce n'est pas d'office quelque chose de négatif. Le thème du temps Tokpa et qui Rewa, qui est plutôt comme traduit par expectation, par attente ou les choses qu'on attend qui se produisent. On est toujours poussé par la peur ou l'anxiété, on se fait du souci, et aussi par les choses qu'on veut, ce qu'on attend et l'attachement. Et c'est comme ça que notre esprit est tout le temps occupé et fonctionne. Et notre esprit est toujours dérangé par ça. Parce que la plupart du temps, toutes nos attentes ne se réalisent pas. On est toujours anxieux ou de peur que les choses se produisent. Et à cause de ça, notre esprit n'est pas en paix. Et donc à cause de cela, nous devons voir ou réaliser, comprendre que nous soyons dérangés, qu'il n'y ait pas de paix dans notre esprit. On doit comprendre que oui, on doit voir de manière claire ce qui cause quoi. Et donc, on ne veut pas des choses, que des choses négatives nous arrivent, on ne veut pas de problème, on ne veut pas de souffrance. Et en fait, ce qui amène toutes ces émotions négatives ou déplaisantes, c'est parce qu'on a trop d'espoir ou d'attente. Et quand on a trop d'attente et d'espoir, donc c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir et ne pas réagir de cette manière. Et quand on a beaucoup de peur, par exemple, ce n'est pas très utile et c'est pas. Et si on peut trouver un certain équilibre et qu'on comprend ça, et à ce moment-là, on sera un peu plus paisible. Et pour faire cela, on doit comprendre que, par exemple, on doit comprendre que la vie est précieuse c'est précieux parce que c'est notre vie, c'est celle qu'on a. Elle n'est pas toujours facile à avoir. La vie humaine est quelque chose où on a un peu d'intelligence, beaucoup de qualités et de possibilités. Donc c'est important de le savoir. Et par ailleurs, on va comprendre que ça ne va pas durer éternellement et que la vie peut cesser à tout moment. Et donc il ne faut pas trop attendre et avoir trop d'espoir. Et ça ne sert à rien non plus d'avoir trop de peur, parce que de toute façon, on va perdre cette vie. On va de toute façon mourir un jour. Et on ne sait pas quand. Et donc, on a utilisé cette précieuse vie du mieux possible. Mais même si on est très prudent, ça ne va pas durer pour toujours. Et on ne sait jamais quand on va terminer. Et donc, on doit avoir ça un peu à l'arrière de l'esprit, dans notre esprit, savoir qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver et on doit en être content et on peut les partager et on doit essayer d'aider les autres. Mais il y a aussi des choses moins plaisantes qui vont arriver, parce que ça arrive à tout le monde, nous compris. C'est pas que tout sera toujours se terminer d'une bonne manière et qu'on aura une solution pour tous les problèmes et qu'il n'y aura plus jamais de problème et que tout sera 100% positif. Mais c'est OK, ce n'est pas grave. Quand vous avez cette compréhension, quand on réfléchit, quand on contemple ces quatre pensées, la vie est précieuse, mais elle est impermanente. Et l'esprit, l'état d'esprit samsarique va apporter beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de défis. Et le problème, et la vie n'est pas un lit de roses. Mais tout arrive pour des causes et des conditions. Et du point de vue bouddhiste, on parle de la souffrance. On parle beaucoup de souffrance au bouddhisme, il y a beaucoup de souffrance dans la vie. Maintenant, mais dans le passé, dans le futur, il n'y a jamais eu une époque où il n'y a pas de problème. Et peut-être qu'il n'y en aura jamais de moment comme cela. C'est quelque chose d'important à comprendre, mais au même moment, de la même manière. C'est pas quelque chose qu'on peut complètement transformer. Ça, c'est le côté optimiste des enseignants bouddhistes. Même le samsara peut être transformé. Tout le monde peut atteindre le bonheur de manière continue. Si on pratique de bonne manière, ça peut même arriver dans cette vie actuelle. Il y a beaucoup de souffrances et beaucoup de problèmes, mais ça peut être complètement transformé. Et petit à petit, de manière tout à fait positive, et de manière permanente, ces souffrances peuvent disparaître. Donc ces quatre pensées qui tournent l'esprit vers le dharma sont des réflexions, des méditations sur cela. Merci Rinpoche. Une autre question peut-être? Kate? Merci Rinpoche, ça fait plaisir de vous voir. Et merci pour ces questions-réponses. J'ai deux questions. Sa sainteté, Dalai Lama vient de fêter ses 85 ans. Il y a eu des célébrations et notamment à Tibet House à Barcelone et vous avez participé, vous avez envoyé un message pour cela. Et j'étais très touché par ce que vous avez dit. Et je voulais savoir si vous pouviez dire quelque chose sur la dévotion au gourou dans le Vajrayana. En fait, c'est comme cela. Du point de vue bouddhiste, le Bouddha est le maître, l'enseignant. Gourou, en fait, ça veut dire enseignant. Donc en sanskrit, guru signifie enseignant. Bien sûr, il y a différents niveaux d'enseignants. Quelqu'un comme le Bouddha qui peut vraiment vous montrer donc l'inspiration principale ou le but principal du Bouddha. Était de comment pouvait-il résoudre tous les problèmes de tout le monde. Et donc, il y avait une prédiction qui disait qu'il pouvait être le plus grand empereur du monde. Mais il a compris de manière très claire que même s'il devenait l'empereur le plus puissant du monde, il ne pourrait pas résoudre les vrais problèmes, résoudre de manière permanente les problèmes de tout le monde. Et donc, il a choisi il est parti d'une quête plus profonde et pour un remède plus profond, et c'est ce qu'il a trouvé. Il a trouvé la manière de se libérer lui-même de toutes les souffrances et des problèmes du samsara et atteindre une libération complète de tout cela. Et c'est ce qu'il enseigne. C'est ce qu'il enseigne. Et c'est cela de manière que le Bouddha enseigne de manière inégalée. Maintenant, tout le monde veut avoir le bonheur, être libre de la souffrance, et tout le monde fait de son mieux pour ça. Mais vie après vie, on n'y arrive pas, parce qu'on ne sait pas comment le faire de la bonne manière. Et donc, s'il y a un enseignant qui peut nous montrer cette voie, qui peut vraiment nous montrer comment nous transformer, et nous libérer complètement de toutes les causes et conditions de la souffrance. Ça serait la chose la plus précieuse qu'il ait jamais eue. Et si on peut trouver quelqu'un, si on peut avoir si on peut prouver de la confiance ou de la compréhension que je reçois ce type de conseil ou de guidance d'une telle personne. Et donc ça, c'est la dévotion au gourou. J'ai trouvé un guide, un enseignant, un ami qui m'inspire et qui peut résoudre les causes ultimes et qui provoquent mes problèmes. Et donc, de manière naturelle, on aura la confiance et on sentira ce type d'inspiration de telle personne. Et c'est sans doute ça qui est la dévotion au gourou. Mais parfois, de notre jour, j'ai l'impression que, mais peut-être ça avançait dans le passé aussi, mais si on parle un peu trop du gourou et vous avez besoin d'un gourou, vous devez vous trouver un gourou. Souvent, il arrive parfois que les gens ne savent pas en fait quel est pourquoi est-ce qu'il y a un gourou et quel est le rôle du gourou. Il y a une incompréhension que la relation avec le gourou, que ce n'est pas une relation d'enseignant à élève, mais que c'est plutôt une relation un peu romantique en disant, ah, c'est mon gourou. C'est pas ça l'idée. Et ce qui compte, c'est pas la proximité qu'on a avec le gourou. C'est pas ça du tout. Peut-être que le gourou nous a aperçus qu'une seule fois dans la vie, mais si vous pouvez réellement comprendre ces enseignements et qu'on peut les utiliser et les mettre en pratique, alors à ce moment-là, on détient sa lignée. Et si vous ne comprenez pas cela, même si vous êtes proche de lui et que vous lui cuisinez tous les jours pour lui, vous faites pas du tout ses repas, ou que vous dormez dans la pièce d'à côté, ça n'aura pas le même effet, c'est quelque chose de différent. Donc parfois, on parle trop de dire, ah, il faut absolument trouver un gourou. Et donc, ça, c'est un problème pour certaines personnes. Donc, c'est ce que le Bouddha a toujours dit. On ne doit pas s'appuyer sur quelqu'un, mais sur son dharma ou ses enseignements. Tandis que si on compte tant sur la personnalité plutôt que sur le dharma, j'ai rencontré des personnes qui venaient chez moi, ah où est mon gourou? Je dois trouver mon gourou, comment est-ce que je peux trouver? Aidez-moi à trouver mon gourou. Et là, souvent, je dis, oubliez après le gourou. Essayez plutôt de comprendre le dharma. Vous n'avez pas besoin d'un gourou. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est le dharma. Et si on reçoit le dharma, l'enseignement, et qu'on trouve une personne ou un maître, et un gourou, ça peut être pas seulement une personne. En fait, on parle de quatre types de gourous. Le gourou de la lignée. Donc ça, c'est la personne qui vient depuis le Bouddha qui a reçu la lignée des enseignements. Il y a aussi le gourou des textes. Donc les enseignements, les sutras. Et Tantra, c'est aussi une forme de gourou. Quels sont les. Il y en a encore deux autres types. J'ai oublié quels sont les deux autres types de gourous, mais ah, le quatrième, c'est sans doute type de gourou, c'est tous les phénomènes peuvent être utilisés comme gourou. Si on a cette capacité que tout ce qui arrive autour de nous peut aussi devenir comme un gourou pour nous. Et donc, nous venons dans le troisième. C'est le gourou de la réalité ultime, de la vraie nature des choses. C'est aussi le gourou. Ça, ce sont les quatre gourous. J'ai eu un maître zen qui me disait que communiquer avec le gourou, c'était comme si la Bouddha, une nature de Bouddha aidait une autre nature de Bouddha à se révéler. Un des principaux gourous, c'est votre bonté intrinsèque. Et quelle est votre seconde question? Une question très importante, Rinpoché. C'est votre anniversaire dans quelques jours, on le 16. Et on voudrait savoir qu'est-ce que vous aimeriez comme cadeau d'anniversaire. Je n'ai rien besoin de particulier. Vous êtes tous très gentils et très prévenants et attentifs. Et ça, j'ai toute l'année. Il y a beaucoup d'entre vous que je connais pour plus de 20 ans ou 10 ans. Et vous ne vous jamais fatigué de moi. Et vous restez de bons amis. Et c'est très inspirant pour moi. Et je suis très heureux. Que pourrais-je dire d'autre? Être très encouragé par tout cela. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui était déplaisant avec moi. Pendant toutes ces années où j'ai enseigné le dharma, ou peut-être pas enseigné le dharma, mais juste, J'étais dans le monde entier pour faire des pique-niques. Et donc, ils disent que cette année-ci, peut-être que j'ai eu un peu trop de pique-niques et que maintenant, cette année, je peux rester au même endroit pour. Est-ce qu'il y aurait des pratiques ou des mantras qu'on peut réciter pour votre longue vie? Non, non, vous ne devez rien faire de spécial. Vous avez déjà fait assez de choses. Vous avez fait des mantras de Tara, Bouddha de la médecine. Ne faites rien pour moi. Si vous faites des mantras, vous devez les faire pour se sentir le Dalai Lama et pour tous les êtres dans le monde. Et donc on a cette situation qui est un peu difficile, cette pandémie. Vous savez, le gouvernement indien vient d'annoncer. On dit qu'ils vont commencer la campagne de vaccination le 15 août. Ils ont dit qu'ils ont eu un vaccin et qu'ils vont le distribuer à partir du 15 août. Donc peut-être qu'à la fin du mois d'août, on n'aura plus la pandémie. C'est ce que les médias indiens, hein, c'est ce que le premier ministre indien a déclaré. Peut-être que c'est plutôt quelque chose que Donald Trump dirait aussi. Merci beaucoup, Rinpoche. Ah, on a une autre question, Rinpoche. Une question de Karine. Comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez me voir? Oui, je peux vous voir. Content de vous voir, Rinpoché. Merci, Rinpoché, pour les enseignements sur le Bodhisattva. C'est grâce à ces enseignements sur le Bodhisattva que je réalise comment l'importance des autres êtres. Si vous réfléchissez, hein, je me dis parfois moi-même, je n'ai pas assez de pensée pour les autres êtres. par exemple, après la mort, pendant le bardo, si on réalise ces défauts, qu'on ne pense pas assez aux autres, est-ce qu'au moment du pardo, on peut voir exactement si on voit quels sont nos défauts? Est-ce qu'on peut réaliser quel a été notre problème ou qu'est-ce qui n'a pas été? Il n'y a rien qu'on peut dire qui s'est mal déroulé. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a réussi et les positifs qu'on a pu faire, comment ça a pu bien marcher. D'abord, on va essayer de comprendre. Que tous nos problèmes viennent parce qu'on pense qu'à soi-même, moi, 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 moi. Et si on n'est que sans concentrer sur ce qu'on veut nous-mêmes, si je peux comprendre ça de manière claire, et alors là, on peut comprendre que ce n'est pas une bonne chose. Et que si on commence à penser à d'autres, ce sera une chose positive pour moi. C'est pour mieux pour eux, bien sûr, mais c'est aussi pour moi, ce sera meilleur. Donc quand cela arrive, et comment j'ai pratiqué cela, peut-être à ce moment-là, je peux essayer de faire grandir cette réalisation, ce sentiment. Peut-être s'il y a quelqu'un qui est dans une position difficile, une personne que j'apprécie, mais donc même chose. Il ne faut pas non plus penser que les personnes qui ont fait des choses négatives ont peu importe et qu'on ne s'en préoccupe pas. Mais aussi vous comprendre que ces personnes-là qui sont un peu plus difficiles sont aussi objets de ma compassion. Si le monde doit devenir bon, on doit aussi avoir ces personnes-là qui sont transformées, changées. Donc il faut vraiment que si les personnes négatives ne deviennent pas positives, alors on peut avoir un monde où tout va bien. Donc il ne faut pas avoir l'idée qu'on doit punir les personnes qui font des actes négatifs. Et qu'alors se sentir bien, ah, maintenant ça va s'arranger, c'est pas comme ça. Il faut comprendre qu'il faut changer les personnes qui font des agnésies parce que même si on les supprime, même si on les tue, ils vont renaître et ils ne seront pas changés. Donc ce qu'il faut faire, c'est changer les personnes. Il n'y a pas d'autre solution. Et après, quand on réalise cela et qu'on pense comme ça, on peut aussi avoir de la compassion pour les gens qui ont fait des choses négatives. Et quand on a cette compréhension, alors on a la compassion pour tout le monde. Bon, ce qu'on peut faire de manière pratique, ça dépend de la situation de chacun. Donc à un certain moment, on a plus de possibilités, on a une situation plus facile pour aider les êtres d'une manière concrète. Parfois, c'est plus difficile, on n'est pas dans cette position qui le permet et qu'on ne sait pas aider de manière concrète. Mais au moins, je peux encore avoir la bonne intention, une bonne motivation et un bon cœur. Donc, ce bon cœur est très important. Et peut-être que je peux aider une personne ou quelques personnes. Et je peux avoir certains projets, et certains de ces projets vont bien se passer, d'autres ne vont pas réussir si bien, mais je peux au moins essayer. Et ça dépend aussi de nos conditions karmiques personnelles. Parfois on peut faire beaucoup, parfois on ne peut pas faire, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça qui est important. C'est comme ça qu'on doit comprendre. Et si on a ça, si on a cette attention et cette manière de voir, cette perspective, et alors cette perspective va se développer en nous-mêmes et devenir notre manière de vivre. Et même dans mes rêves, on pourra penser, ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres? Et même chose dans le bardo. Et donc, si on a cet état d'esprit, et donc je deviens une bonne personne. Et on peut accumuler beaucoup de karma positif. Et donc, je ne veux pas faire de grosses erreurs et mal tourner. Ça, c'est le point principal. Donc, de cette manière, tout ce que je peux faire pourra devenir quelque chose qui est pour bénéficier, qui peut bénéficier les autres. Ce qu'on fait de manière physique ou en pensée, donc ce qu'on fait de manière concrète, c'est peut-être une petite chose, mais si mon intention est pure et bonne, alors c'est un acte très très positif. Donc ça pourrait aider de manière très différente. Donc cette impression de ne pas faire assez, ça ne va pas là. Non, non, non. Bon, bien sûr, c'est bien ça peut être positif de penser qu'on veut faire plus. Mais donc, on peut réfléchir à ce qu'on peut faire de plus pour aider les autres. Mais on ne devrait pas avoir cette culpabilité de ne pas faire assez, penser qu'on n'est pas assez bon. C'est pas ça qu'il faut avoir. Merci Rinpoché. Personne suivante. Bonjour Linda. C'est une question sur la patience. C'est aussi une question un peu personnelle. Je m'occupe de mon mari qui a eu un AVC il y a quelques années et sa santé se détériore. Ce qui est vraiment difficile pour moi, c'est que parfois il est très fâché sur lui-même, très frustré parce qu'il ne peut plus faire des choses comme avant. Il y a de moins en moins de choses qu'il peut faire. Et je fais de mon mieux tout pour l'aider. Mais je ne suis pas toujours très efficace et je n'ai pas toujours fait ce qu'il faut. Je voulais savoir comment mieux réagir. Est-ce que je dois être patient? Oui, je pense que c'est là que vous devez avoir de la patience. C'est d'avoir de la patience. Mais que, vous savez, parfois, il y a des choses, on ne sait pas faire grand-chose. Dans cette situation, votre mari n'est plus capable de faire certaines choses. Il perd un peu de ses possibilités ou de ce qu'il peut le faire. Donc, ce n'est pas facile de ne pas perdre la patience dans une situation comme celle-là. Et donc, si ça arrive, et parfois ils se fâchent sur les personnes autour de lui. Non, non, dit Linda, une femme, c'est pas du tout. Ah ben, très bien, dit Rinpoché, c'est que vous êtes vraiment très bonne avec lui, s'il n'est pas fâché sur vous. Mais parfois, même quand ils savent que les gens autour d'eux font leur mieux, mais quand ils sont fâchés ou qu'ils souffrent, donc à ce moment-là, ils peuvent un peu se fâcher et peuvent un peu se plaindre sur les gens autour d'eux. Ça peut se comprendre. C'est ce qui arrive quand les gens ont beaucoup de souffrance. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est comprendre cela et de continuer à faire votre mieux. Le plus important, c'est de comprendre que oui, il a toute cette souffrance et difficulté. Et donc, vous ne pouvez pas penser que c'est personnel et que c'est dirigé vers vous. Et donc, ce qu'il arrive, ça doit rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Et vous devez permettre à tout cela de passer à travers vous. Et donc, de ne pas vous laisser blesser par ce qui arrive. Ça, c'est important à savoir. Le plus que vous pouvez faire ça, le mieux pour vous, et sans doute le mieux pour lui aussi. Merci Rinpoche. Merci Rinpoche pour cette possibilité. Je veux juste vous remercier. Parce que je suis très content, je vous remercie parce que je suis très content de pouvoir étudier le Bulgarien avec vous. Merci. J'ai une question sur la patience. Si je me souviens bien, vous avez dit que si quelqu'un autour de vous a beaucoup d'émotions négatives, parfois c'est bien d'un peu se mettre en arrière, de se protéger de cette personne, prendre un peu de distance. Et j'ai demandé si vous pouviez un peu élaborer sur ce point-là. Comment faire cela? C'est ma situation personnelle. Je suis pour l'instant avec ma famille et j'essaie d'un peu les aider pendant cette situation de pandémie. Un de mes parents a des difficultés avec ses émotions qui sont. J'aimerais beaucoup l'aider. Mais elles sont parfois, je suis un peu frustré de pouvoir aider, mais je n'y arrive pas. Mais cette personne est catholique et a sa propre pratique. Mais si vous pouviez juste un peu commenter sur cela m'aiderait. En fait, oui, la patience est principalement cela. Vous comprenez. Vous ne vous laissez pas trop affecter par ce qui arrive autour de vous. C'est ça la patience. Si certaines personnes sont fâchées ou en colère, peut-être au départ vous avez l'intention d'aider, mais si vous ne savez pas aider ou si vous ne permettez pas de les aider et qu'ils sont en colère, et donc si vous devenez aussi en colère et vous fâchez aussi, donc ça n'aide personne. Donc la première chose à faire, c'est que vous-même, vous vous immunisiez contre les réactions des personnes autour de vous. Et donc vous comprenez que les gens réagissent de manière très différente, ils ont beaucoup d'émotions, les gens ont de la souffrance, et parfois aussi il y a de la compréhension. Toutes ces choses, vous devez les comprendre, et une fois que vous avez compris cela, alors vous comprenez qu'il est parfois difficile d'aider. Parce que c'est pas facile de changer les personnes autour de vous. Il n'est pas toujours facile de toucher les personnes qui nous comprennent. Et donc, si on a compris ça, à ce moment-là, on n'est pas trop frustré quand ça ne fonctionne pas. Et donc, si les gens sont en colère ou déçus, ce n'est pas une chose plaisante. On a le souhait qu'ils ne soient pas comme ça et qu'ils soient plus heureux et joyeux et on leur souhaite bonne chose. Mais ce n'est pas toujours possible. Et donc à ce moment-là, on doit être et on peut avoir une vue plus large, et être plus tolérant et nous donner nous-mêmes un peu d'espace. Parce qu'on ne doit pas s'acharner, on ne sait pas nourrir les personnes de force. Il y a des moments où on ne sait pas agir de force. Et parfois, aider les autres, c'est simplement aussi ne rien faire et leur donner à eux un peu d'espace et un peu de temps. Et leur laisser leur propre espace. Et parfois, les gens ont besoin d'apprendre par eux-mêmes et transformer par eux-mêmes. On ne sait pas les forcer leur cela. Et donc notre patience, c'est de faire cela et de laisser leur espace. Et donc, leur laisser du temps et de l'espace. Et dans notre amour et notre support, mais on n'impose rien. Merci, Moshe, ça m'a beaucoup. J'ai encore une petite question sur la bodhicitta. Le bodhicitta, c'est cet désir pour tous les êtres d'être heureux et ne pas souffrir. Est-ce qu'il y a aussi avec le bodhicitta de ne pas être un peu lâcher prise et ne pas être attaché à ce résultat qu'on espère pour les autres? On dit qu'il y a deux buts pour la bodhicitta, deux points, deux objectifs. Bodhicitta, c'est le cœur de l'illumination. La première partie, c'est l'illumination. On voit la souffrance de tous les êtres. Et on comprend que ce n'est pas bon. On comprend que tout le monde est comme nous et qu'ils ne veulent pas de souffrance et qu'ils veulent avoir la paix et le bonheur de manière continue. Et donc on prend cela et on fait souhait pour tout le monde. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse est très importante aussi. Quand on parle du cœur de l'illumination, qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est quand on comprend vraiment comment nous sommes, comment tout est. Comment une personne, une conscience est. Et quand on comprend cela, que la manière dont notre esprit est, la manière dont on est, et la manière dont le Bouddha est, et comment est un être illuminé, c'est la même chose. La seule différence, c'est la perspective, la manière dont on voit les choses, et dont on fait l'expérience des choses. Donc c'est pour cela. Ce qu'on appelle la vérité ultime, ou la nature absolue, ou peu importe comment on l'appelle, ça c'est l'autre facette de la bodhisattva. Quand on sait qu'en réalité, tout le monde souffre, en fait, il pense qu'il souffre et la souffrance. Mais en fait, il suffit de savoir que c'est un problème de perspective. En fait, c'est comme un rêve. Et donc, c'est beaucoup de souffrance et de problèmes dans nos rêves. Bien sûr, on en souffre. Et on ne veut pas que ça, on veut pas que ça arrive. Ce n'est pas guère assuranté. Mais en fait, quand on se réveille, on se rend compte que ça n'a jamais existé, que ça n'a jamais été là. Et même donc, les souffrances les plus profondes sont un peu comme cela. C'est quelque chose de similaire. Quand vous comprenez cela, donc quand on comprend cela, on ne peut pas être tellement, comment dire. Et donc, quand on rencontre ça, on souffre un peu, de manière un peu moins intense. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on veut que les êtres soient libres de la souffrance, moi-même et tous les autres, et cette réalisation de l'illumination. Et donc, on devient comme un chevalier, un héros de la compassion, un combattant pour le bien-être des êtres avec compassion et sagesse. Et aussi, on a une compréhension profonde et on a un peu confiance dans le fait que c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'il faut juste l'éveiller. Merci Rinpoche. On peut être encore une ou deux questions. Question de Rodney. OK. Voilà Rodney, sa question. Oh, vous avez une grande barbe maintenant. Content de vous voir, Rinpoché. Vous êtes en bonne santé? Oui? Merci. J'ai l'esprit d'un vieil homme, mais je vais bien, merci. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. C'est un peu coupable parce que je n'ai pas fait toutes ces pratiques, merveilleuses pratiques, depuis un certain temps. Mais j'ai développé un intérêt pour une connexion entre le dharma et la science, et les sciences neurologiques, la neuroscience. Et ça, j'ai beaucoup d'intérêt pour cela, et donc j'ai continué à lire là-dessus. Et la pratique de Lojong. Quel est votre avis sur votre opinion sur les gens qui essaient de lier les neurosciences et le dharma? Qu'en pensez-vous? Vous savez, je pense que le bouddhisme, que le Bouddha était quelqu'un qui était à la recherche. Donc il est parti à la recherche d'une manière libérer tous les êtres de la souffrance et leur apporter une paix et un bonheur permanent. Donc c'est le bouddhisme complet est basé là-dessus. Et donc il n'y a pas un dieu ou un créateur. Il n'y a pas une révélation. C'est basé sur la recherche de la fin de la souffrance. Comment résoudre les problèmes des gens? C'est en fait là-dessus que le bouddhisme, c'est la recherche de la vérité. Et donc, de la même manière, la science est aussi une recherche de la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il est très facile de faire un dialogue entre la science et le dharma, entre la science et le bouddhisme. Parce que ce sont tous les deux des recherches. Dans le dharma et le bouddhisme, il n'y a rien qu'on appelle un blasphème. Le concept de blasphème n'existe pas dans le bouddhisme. Peu importe ce que vous disiez, même qu'ils ne sont pas. Et personne ne va vous tuer pour ça. Peut-être qu'ils vont vous débattre avec vous de manière très énergétique. Mais ils ne vont pas vous tuer si vous n'avez pas un avis le même que... Tout le monde a le droit de trouver la vérité par la logique, le raisonnement, l'investigation, en analysant les faits. C'est une recherche qu'on fait ensemble et donc ce n'est pas que la science doit supporter le bouddhisme ou que le bouddhisme supporte la science. Sa Sainteté Dalai Lama dit de manière très claire, dès qu'il ne veut pas de conclusion. Personne ne doit conclure, oui, le bouddhisme est prouvé de manière scientifique, ou bien que le bouddhisme est près de la science, ça ne va pas être, ça s'interdit que ça ne va pas être comme ça. On doit continuer à discuter. C'est aussi parce que la science est une manière de poser des questions pour trouver la vérité. Et le bouddhisme aussi, ça, c'est poser des questions pour trouver la vérité. C'est comme ça que ça devrait être. Comme la science a jusqu'ici été avec. La science s'est occupée jusqu'ici de la matière et un peu moins de l'esprit. La science n'est pas beaucoup intéressée à l'esprit jusqu'ici. Parce qu'ils pensent, ils voient l'esprit comme un sous-produit de la matière. Mais donc, par contre, le bouddhisme a beaucoup de choses sur l'esprit. Et donc, beaucoup de scientifiques ont trouvé que le bouddhisme a beaucoup de choses à dire sur l'esprit et des aspects que la science n'a pas explorés jusqu'ici. Et donc, c'est pour ça que des scientifiques sont intéressés là-dedans et permis d'explorer un peu profondément l'esprit à travers des études bouddhistes. C'est en fonction de ça qui se passe. Donc, je pense que c'est une très bonne chose, c'est très sain. C'est quelque chose d'important, je pense. Et donc, c'est bon d'être curieux et de s'y intéresser. Et donc la curiosité, c'est le début de chaque apprentissage. Oui, j'ai encore un peu de curiosité. Merci, Rinpoché. C'est au mois de novembre que nous avons eu. On a eu 5 jours de formation pour des lamas tibétains, le Kempo et tout le coup. Et ça a été organisé à Bodh Gaya pour 5 jours. Avec le docteur Richard Davidson et Mathieu Ricard et Minju Rinpoche en Bodh Gaya. Ils ont rassemblé une centaine de lamas, Kempo, Tulku, Geshe, tibétains. Et on a eu 5 jours de discussion très positive, très intéressante, très, très inspirante pour tout le monde. Merci Rinpoche, c'était content de vous avoir vu. Encore une question de Steve. Tashi Rinpoche, comment allez-vous? D'ailleurs, je suis très impressionné par que c'est enseignement par Internet, ça marche vraiment bien. Je suis très impatient d'entendre vous entendre enseigner sur le chapitre de la diligence. Et donc, l'Internet me permettre avec vous maintenant, et puis cet après-midi avec Pema Chodron et d'autres. Et donc, l'Internet nous permet vraiment. On est presque dans un Disneyland du Dharma. Peut-être que c'est même un peu trop. Je suis à 2500 mètres d'altitude et j'ai besoin d'un satellite pour avoir Internet, mais j'ai une question sur. On devrait demander au protecteur de nous protéger et qu'on puisse encore avoir Internet qui nous permet de faire toutes ces choses extraordinaires. Because j'aimerais beaucoup que ces enseignements par Internet continuent. Et on pourrait dire qu'on devrait presque avoir un protecteur spécifique pour le Zoomakaya. Non, on n'a pas encore de protecteur pour les Internet. Où êtes-vous? Je suis à Creston. Très bien. Vous allez bien, Rinpoche? Tout se passe bien chez vous? Oui, on a eu quelques cas de COVID. Parce qu'on a des personnes qui ont été autorisées à rentrer au Sikkim. Pour l'instant, seuls les résidents au Sikkim peuvent venir. Et plusieurs milliers sont revenus au Sikkim. Et donc, apparemment, parmi eux, il y avait quelques personnes qui avaient, qui étaient affectées par le virus. Mais pour l'instant, personne n'est décédé. Et les gens vont mieux. Donc pour l'instant, ce n'est pas trop important ici au Sikkim. Steve pense qu'il l'a attrapé il y a 2 semaines parce qu'il toussait et il avait d'autres signes qu'il avait contracté COVID. Mais après une semaine, ça a disparu. Peut-être que je devrais aller me faire tester et pour vérifier. Non, faites juste attention de ne contaminer personne à Creston où vous vous trouvez. Je pense que j'ai peut-être rattrapé le virus quand mon fils est venu me rendre visite depuis Denver.
Donc maintenant, je suis en quarantaine à la maison et je peux juste rester à la maison et regarder, suivre des enseignements sur Internet. Merci, Rinpoche. Peut-être que encore une question de Karma Norbo. Cachez les remarchés. Je suis un peu attristé qu'on ne se retrouvera pas tous au Portugal cette année. Est-ce qu'il y aura un summer camp par Zoom? Oui, c'est le projet. On a la décision de faire cela. Mais on a encore décidé d'un sujet pour le summer camp en ligne. Mais donc, si vous avez une proposition, vous êtes bienvenue. Mais donc, il y aura bien un summer camp cette année par Zoom. Mais donc, le week-end prochain, le 17, le 18, 19 juillet, je fais 3 jours d'enseignement. J'aurais dû normalement présider le Kerguelen en Espagne, à Barcelone. Et donc, c'était annulé. Mais donc, je ferai 3 jours d'enseignement en ligne, trois enseignements en discussion. De comment faire face aux temps difficiles. Ce sera le thème de ces 3 jours d'enseignement. Et peut-être que début, nous pourrons faire quelques jours, 3 ou 4 jours, au moment où on aurait dû avoir le summer camp et qu'on pourra faire l'enseignement à ce moment-là. On va sans doute essayer de faire quelque chose à ce moment-là. Bon, donc on se verra la semaine prochaine. Merci, Rinpoche.